Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nin Artri. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Le grand guide des neuroatypiques de Vincent Yorick se présente comme un manuel de vulgarisation et d'accompagnement destiné aux personnes qui se reconnaissent dans des fonctionnements dits atypiques, ainsi qu'à leurs proches. Le titre annonce un panorama de plusieurs profils fréquemment évoqués dans le champ de la neurodiversité, notamment le TDAH, le TSA et le HPI, avec l'ambition de mieux comprendre ces particularités, de les accepter et de mieux vivre au quotidien, dans cette catégorie. Et l'enjeu principal est de proposer des repères clairs, des mots pour décrire l'expérience subjective et des pistes concrètes pour s'organiser, se protéger et communiquer plus sereinement. Faute de sources publiques détaillant précisément la structure et les tools propres à cet ouvrage, il convient de rester sur une lecture prudente de son positionnement. Il s'inscrit vraisemblablement dans la lignée des guides pratiques qui combinent explications accessibles, réflexion sur l'estime de soi et stratégie d'adaptation dans la vie personnelle, sociale et professionnelle. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, comprendre la neuroatypie sans la réduire à une étiquette. Un guide consacré aux neuroatypies vise généralement à offrir un cadre de compréhension qui aide à mettre de l'ordre dans des vécus parfois anciens, confus ou culpabilisants. Le point de départ est souvent la distinction entre un diagnostic clinique et un ressenti d'atypie, afin d'éviter deux écueils opposés. L'auto-invalidation et l'auto-diagnostic hâtif. Dans un tel manuel, la notion de neurodiversité sert de langage commun pour parler de différences de cognition, de attention, de sensorialité, de sociabilité et de régulation émotionnelle. L'intérêt n'est pas seulement descriptif, il est aussi identitaire. Car nommer un fonctionnement peut réduire la honte, améliorer l'autocompréhension et faciliter la demande d'aide. En parallèle, une approche responsable rappelle que ces catégories recouvrent des réalités hétérogènes et que les besoins varient fortement selon les personnes et les contextes. Et l'objectif pratique est de passer d'une étiquette subie à une carte de navigation, repérer ses forces, ses vulnérabilités et ses déclencheurs. Pour ajuster son quotidien sans se définir uniquement par un sigle, de ciment, TDAH, TSA, HPI et profil voisin, repères et points de vigilance. Le titre annonce une couverture de plusieurs profils, souvent cités ensemble dans les discussions grand public, TDAH, TSA et HPI. Un apport attendu d'un grand guide est de proposer des repères simples, ce que recouvrent ces termes, ce qui les différencie. Et pourquoi ils peuvent parfois être confondus dans l'expérience vécue. Les difficultés d'attention et d'impulsivité associées au TDAH. Les particularités d'interaction sociale. Des intérêts et de sensorialité associés au TSA. Et la question du haut niveau de capacités intellectuelles, souvent résumée par HPI, renvoie à des dimensions différentes. Mais pouvant se chevaucher dans le quotidien, fatigue, surcharge, sentiment de décalage, anxiété, stratégie de compensation. Un point de vigilance important consiste à éviter les généralisations, car aucun profil ne se réduit à une liste de signes, et les manifestations varient selon le genre, et l'environnement et les comorbidités éventuelles. Un manuel utile insiste aussi sur l'importance de l'accompagnement adapté, de la prudence face aux explications simplistes, et de la recherche de sources professionnelles lorsque la souffrance, l'altération du fonctionnement ou la détresse sont présentes. Troisièmement, est-ce accepter et reconstruire l'estime de soi après des années de décalage? La promesse est-ce accepter et mieux vivre au quotidien indique une dimension psycho-éducative. Au-delà de l'information, beaucoup de personnes se découvrant neuroatypiques décrivent un parcours marqué par l'incompréhension. Les reproches. Le sur-effort et une tendance à interpréter leurs difficultés comme un manque de volonté. Un guide centré sur l'acceptation propose en général des outils pour relire son histoire sans se condamner, identifier les croyances intériorisées, et distinguer ce qui relève d'une différence de fonctionnement de ce qui relève de compétences qui peuvent s'apprendre. L'acceptation n'implique pas de tout tolérer. Elle peut signifier reconnaître ses limites, anticiper la surcharge, demander des aménagements et réduire l'auto-exigence irréaliste. Sur le plan relationnel, cette démarche aide à sortir du masque permanent et à construire un langage pour expliquer ses besoins de manière claire et non conflictuelle. Enfin, l'estime de soi se nourrit aussi d'une approche orientée force, repérer ce qui motive, ce qui donne de l'énergie et les contextes où l'atypie devient un atout, créativité. Hyperfocalisation, sens du détail, capacité d'analyse selon les personnes. Quatrièmement, stratégie concrète pour le quotidien, organisation, énergie, émotion. Un manuel indispensable, annoncé comme pratique, est attendu sur le terrain des ajustements concrets. Les difficultés souvent rapportées par des personnes neuroatypiques concernent la gestion du temps, la planification, la priorisation, la mémoire de travail, la procrastination, mais aussi la régulation émotionnelle et la sensorialité. Un guide efficace met généralement l'accent sur des stratégies simples et testables, structurées et l'environnement. externaliser les rappels, fractionner les tâches, créer des routines légères, réduire les frictions de démarrage, prévoir des pauses. Et construire des systèmes qui pardonnent l'oubli. Il peut aussi proposer des repères pour repérer la surcharge et prévenir à l'épuisement, identifier les signaux corporels. Limiter l'empilement d'obligations et aménager des espaces de récupération. Sur les émotions, l'enjeu est de normaliser l'intensité ressentie par certaines personnes et de proposer des techniques de retour au calme, respiration, ancrage, mise à distance cognitive. Communication non violente. Sans prétendre remplacer un suivi, ce type d'ouvrage sert souvent de boîte à outils pour expérimenter et personnaliser. En se concentrant sur ce qui améliore réellement la qualité de vie. En dernier lieu, vivre avec les autres, communication, entourage, études et travail. Mieux vivre au quotidien implique presque toujours la dimension sociale, car beaucoup de difficultés proviennent du décalage entre un fonctionnement et des normes implicites. Un grand guide sur les neuroatypies peut aider à clarifier les besoins de communication, expliciter les attentes, réduire les malentendus et gérer les situations de conflit. Pour certaines personnes, il s'agit d'apprendre à demander des instructions plus précises, à négocier des délais ou à formuler des limites sans se justifier excessivement. Dans la sphère familiale et amicale, l'apport typique d'un guide est de proposer un cadre pour expliquer son fonctionnement à ses proches, tout en évitant de transformer la neuroatypie en excuse ou en identité totale. Du côté des études et du travail, ces ouvrages abordent souvent la question des aménagements, de l'hygiène de vie, de la gestion des stimulations et des styles de tâches compatibles avec ses forces. Le point central est pragmatique. Augmenter à l'adéquation personne-environnement, choisir des contextes soutenants, structurer la collaboration et réduire les facteurs de surcharge, afin de préserver la performance réelle et surtout la santé mentale. En conclusion, ce livre s'adresse d'abord aux personnes qui se reconnaissent dans un fonctionnement atypique et cherchent un cadre général pour se comprendre. Se déculpabiliser et trouver des pistes d'adaptation. Il peut aussi être utile aux proches qui souhaitent mieux interpréter certaines réactions, anticiper la surcharge et soutenir sans infantiliser. Dans le registre des guides sur la neurodiversité, l'intérêt principal réside dans la promesse de un panorama capable de rassembler plusieurs profils fréquemment évoqués, TDAH, TESA, HPI, et de relier compréhension et action concrète. Le bénéfice attendu est double, intellectuel, mettre des mots sur des expériences, clarifier des concepts. Identifier des zones de confusion et pratiques, tester des stratégies d'organisation, de gestion de l'énergie et de communication. Ce type d'ouvrage se distingue des livres purement cliniques par une visée d'autonomie au quotidien et des contenus purement motivationnels par une orientation vers des repères structurants. En l'absence d'informations publiques détaillées sur sa méthode propre, il convient de le considérer comme une entrée généraliste. Il conviendra particulièrement à celles et ceux qui veulent un guide accessible pour structurer leurs réflexions avant ou en complément d'un accompagnement professionnel. Si vous souhaitez soutenir Vincent Yorick, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.